Hola, hola, chers auditeurs de Rencontre Lusophone. Soyez les bienvenus dans cette émission produite par Radio Résonance et émise sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance Bourges et sur celle de Radio Avalon 105.2 le samedi matin de 11 à 12. L'émission de ce soir va vous être présentée par Manu, Jeff et moi-même Hélène, et on en profite pour faire un petit coucou à Martine qui nous écoute à partir de son Alsace natale. Je vous salue donc tous, que vous nous écoutiez de France ou des quatre coins du monde. Pour nous c'est très enivrant, mais croyez-nous, ça nous fait un bien terrible, n'est-ce pas Manu?
Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir plutôt, effectivement. Ouais.
Alors ce soir, le gros de l'émission, c'est pour toi Manu.
Oui.
Tu peux nous dire deux mots sur le thème que tu vas développer aujourd'hui?
C'est sur le foot, c'est sur les trois plus grands clubs portugais.
Très bien. Bon, ça va peut-être... On verra.
Et le rouge, tu es quelle couleur?
C'est dommage qu'on n'ait pas de réaction.
T'es quoi? T'es rouge?
Moi, je suis rouge.
T'es rouge. Moi, je serais plutôt vert, moi.
Et toi, Jeff?
Oh, bah, le l'aigle.
Bonsoir, Jeff.
Magnifique. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes.
Tout de même?
Tout de même.
Donc tu es plutôt rouge également.
Ouais.
Donc tu es un aigle.
Parce que j'ai visité le stade. Hein.
Enfin, j'y suis allé,
j'ai pas visité,
hein,
on est rentré quand même dedans.
Ouais. Et toi donc tu es un lion.
Oui, plutôt, je suis plutôt sportingiste, j'adore ce club. Ouais.
D'accord, très bien.
D'un côté, c'est le club des riches à l'origine. Donc,
ah oui. Bon. Oui, d'accord, mais je vais expliquer tout ça alors.
Et Benfica, c'était le club des pauvres.
Eh bien alors, on est vraiment, oui, on est rouge. Alors le football, c'est vrai que c'est une religion au Portugal, puisque les soirs de grands matchs, on le sait bien là-bas, le cœur du Portugal bat au rythme de chaque équipe qui se dispute sur le terrain.
Ah, tout à fait.
Bon. On y était une fois, tu te rappelles, dans le restaurant en face, commercial, on ne pouvait même pas manger tellement il y avait du monde, impossible.
On voit les gens dans le métro avec leur petite radio, c'est vraiment... C'est particulier, très particulier.
Surtout quand t'as le Benfica et le Sporting qui jouent ensemble.
Oui, les deux plus grands. Je vais blesser ceux qui sont de Porto en disant ça.
Ouais, ben même avec quand avec il y a Porto. Porto, c'est très quelque chose.
Hein. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Après ma petite chronique, parce que ce soir, j'ai décidé de vous embrouiller un peu la tête, hein, parce que j'ai profité du bicentenaire de la naissance de Baudelaire et de son spleen pour en faire un parallèle avec la Saudade de Pessoa, vous verrez. On y va? Quel est le mot magique, Jeff?
Bora!
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Hier, le 9 avril 2021, marquait le bicentenaire de la naissance de Baudelaire, le poète maudit. Maudit parce qu'il était incompris. Maudit parce qu'il n'a jamais été reconnu dans son vivant. Maudit parce qu'il a eu une enfance malheureuse. Maudit parce qu'il n'a jamais été heureux en amour. Et enfin parce que très jeune, sa santé s'est détériorée. Pour moi, Baudelaire, ce sont les fleurs du mal et le spleen. Ce spleen qu'immanquablement, avec le sang portugais qui coule dans mes veines, je n'ai pu m'empêcher d'assimiler à la saudade, au fado et à Pessoa. En disant cela, j'ai compris que Fernando Pessoa, le portugais, et Charles Baudelaire, le français, étaient en réalité deux véritables poètes du spleen, tant le nombre de points communs entre eux est important. Du point de vue biographique, ils ont tous les deux perdu leur père très jeune. Une perte paternelle qui, invariablement, a entraîné chez eux un rapport d'attachement très étroit avec leur mère. Tous les deux ont éprouvé toute leur vie un sentiment d'irrémédiable solitude sans pour autant vivre dans l'isolement. Ils sont morts à peu près au même âge, 46 ans pour Baudelaire et 47 pour Pessoa. On sait que Pessoa admirait Baudelaire et qu'il a été visiblement influencé par son œuvre, en particulier par le spleen, cette thématique que l'on retrouve dans leurs poésies respectives. L'ennui, le spleen, la saudade, ces trois sentiments habitent effectivement ces deux grands poètes mélancoliques. Chez Pessoa, la définition de l'ennui, en portugais o tédio, oppose les deux sentiments saudade et spleen. Ce qui signifie que pour Pessoa, le spleen ou l'ennui sont différents de la saudade. Alors je sais que pour un non-lusophone, la saudade peut être difficile à comprendre puisque c'est effectivement un terme complexe bien différent de la nostalgie. La saudade, c'est ce que l'on ressent en l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un sentiment de manque, mais paradoxalement également une espèce de stimulation du désir. Et c'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer la difficulté pour la traduire dans une autre langue. selon le site philofrançais.fr, si l'on devait rapprocher la saudade du spleen baudelairien, on pourrait dire que Pessoa voit dans la saudade, non pas le spleen, mais l'idéal de Baudelaire, inachevé, infini, ouvert, parce que la temporalité de la saudade est réduite à la subjectivité. Je sais, c'est une définition plus que complexe. Mais tout cela pour vous dire que dans la saudade, il y a en réalité une notion de temporalité qui n'existe pas dans le spleen. Puisque toujours selon Pessoa, la saudade, c'est une manière d'être présent dans le passé ou d'être passé dans le présent. La saudade devient alors ce sentiment typiquement portugais qui fait exister ce qui n'existe plus. Elle prend alors possession du sujet tout en niant le présent, bien trop décevant au regard de l'idéal avec lequel il se confronte. Je sens bien que je suis déjà en train de vous embrouiller la tête. Mais pour terminer, je voudrais juste vous donner deux exemples pour vous faire comprendre la nuance entre spleen et saudade. Au fil de sa poésie, le poète portugais Pessoa exprime que la saudade correspond à une aspiration vers un idéal, alors que Baudelaire vit dans son spleen une sensation charnelle de vide et parfois même une vraie sensation physique du chaos. Voilà, j'espère que c'était plus clair avec ces deux exemples. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le spleen de Baudelaire avait finalement tout pour se confondre avec le fado, que je qualifierais comme la musique par excellence du spleen. Et bien voilà. Pour moi, le lien est tout trouvé. Et donc, pour clore mon billet d'humeur d'aujourd'hui, je vous présente un des plus grands poèmes de Baudelaire, mis en musique par Cristina Blanco. Voici un superbe fado, c'est l'invitation au voyage.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ce ciel brouillé, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. La tonique corde beauté, luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les hommes, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tous les corps et beauté, luxe calme et volupté, papa, 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 yeah, papa. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canons la ville entière, d'hyacinthe et d'or le monde s'endort dans une chaude lumière. Luxe calme et volupté, la tonne est cordre et beauté. Luxe calme et volupté.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre lusophone.
Je vais commencer l'émission d'aujourd'hui par une question. Connaissez-vous le rapport qu'il peut y avoir au Portugal entre des dragons, des aigles et des lions? Je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent connaissent la réponse. Comme tout bon portugais qui se respecte, n'importe qui au Portugal et ailleurs vous donnerait la solution immédiatement. Le dragon, c'est le FC Porto. L'aigle, c'est le Benfica de Lisbonne. Et le lion, c'est le Sporting du Portugal. Ces trois clubs dominent la planète foot portugaise depuis plus de 100 ans. C'est bien simple. Depuis que le championnat portugais existe, il fut créé en 1934. Les trois clubs ont gagné 98% des éditions. Oui, je dis 98 car il y a eu deux fois qu'aucun des trois n'a réussi à gagner l'épreuve. Une première fois quand le FC Belenenses, la troisième équipe de Lisbonne, s'est imposée en 1946. Et une seconde fois en 2001 quand le Boavista FC, une formation de Porto et grand rival du FC Porto, avait réussi à finir premier. Sinon, à part ces deux fulgurances, les autres années furent des passes de trois, malgré que le Sporting est assez loin derrière en termes de titres, des deux ogres que sont Porto et Benfica. Il y a deux ans, nous avons fait une émission sur l'histoire du foot, dans quelles conditions et de quelle manière il est apparu au Portugal. Mais il est bon de faire des petites piqûres de rappel de temps en temps, et si cela ne vous fait rien, nous allons y revenir pour nous rafraîchir la mémoire. La toute première fois où un ballon a roulé sur le sol portugais fut sur l'île de Madère, en 1875. À cette époque, de nombreuses familles anglaises vivaient sur l'île et envoyaient évidemment leurs rejetons étudier en Angleterre, Oxford ou Cambridge. J'imagine que vous voyez le coup venir. Alors pendant les congés scolaires, un étudiant, un jour, un certain Harry Hinton, ramena dans ses bagages un objet sphérique en cuir. La tradition veut que le premier match fut disputé à Camacha. Et déjà, à cette époque, un certain Cristiano... Non, je déconne. Ah oui, mais il est quand même curieux de savoir que c'est précisément l'île de Madère qui fut le théâtre de l'introduction du football. Pour être plus sérieux, à partir de ce match, ce fut un véritable engouement. Et ce tout nouveau sport fut adopté par la jeunesse de l'île. Sur le continent, il faudra attendre 13 ans et l'initiative d'un jeune étudiant portugais, issu de la noblesse, qui après avoir fini ses études en Angleterre, ramena lui aussi un ballon dans ses bagages. Il s'appelait Guilherme Pinto Pastos, et en compagnie de ses deux frères, ils promulguèrent l'implantation du foot au Portugal continental. La toute première rencontre se disputa à Cascais. Un an plus tard, le premier match vraiment officiel se disputera au Campuquen à Lisbonne. Pour l'occasion, une équipe portugaise constituée de nobles, dont les frères Bastos, en faisait partie, et une équipe composée de jeunes ouvriers anglais se confrontèrent. La fin du match vit la victoire des Portugais. Au nord, le rôle que joua Pinto Bastos à Lisbonne fut repris par un certain Antonio Nicolau de Almeida, qui fondera le Football Club de Porto. Le club sera la jeunesse du club de Porto que nous connaissons aujourd'hui. Mais en 1890, l'essor du foot au Portugal fut freiné suite à la triste affaire dite Map Cor-de-Rosa. Pour faire court, on s'est mis copieusement à détester tout ce qui était anglais, dans le foot, qui était typiquement un sport 100% britannique. Il n'y a qu'en 1894 que le tout premier match officiel opposant Lisbonne à Porto eut lieu. Il opposait le Carcavelos Club au Football Club de Porto, sur le stade du Oporto Cricket Club. Ce jour-là, on vit la victoire de Lisbonne sous les yeux de la famille royale qui avait fait le déplacement pour l'occasion. Dans les années qui suivirent, des tas de clubs de foot firent leur apparition, la plupart du temps éphémères. Mais quand un club disparaissait, il était remplacé par un autre. Il n'y a qu'au début du XXe siècle que les trois clubs qui nous intéressent aujourd'hui apparurent. Et le plus ancien des trois est le FC Porto, du moins le club que l'on connaît de nos jours. Il fut fondé officiellement en 1906 et il remplaça l'ancien club qui avait été fondé par Almeida et qui avait cessé d'exister quand Almeida se désintéressa du football, qui existait, lui, depuis 1893. Pour les pauses musicales, j'aurais pu faire une petite compilation de chansons ayant trait au football, mais comme je suis un vilain, j'ai plutôt préféré faire une playlist de chansons traditionnelles, dont voici la première, qui n'a aucun rapport avec le foot. Thank you.
feito a semana passada. Foram dar com o chofer a dançar com a criada. Dizia-lhe ela baixinho: na prise és bestial.
Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal.
Chegou a altura da valsa e exibiu-se o Osório. De repente cai-lhe a calça, rebentou-lhe um suspensório. Aflito com a mão na cinta, perante o riso geral.
Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal.
De Vicente, que é de São Pedro da Cova, para mostrar que ainda é valente, foi dançar a bossa nova. Escorregou no soalho, caiu, foi para o hospital.
Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal.
Quando o serviço abundante no baile se iniciou, o Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe a locas ao ouvido: pareces um animal. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal. Sequiosa não resistiu ao whisky e, para se tornar famosa, quis ir dançar o twist. Ao dar um jeito, partiu-se a coluna vertebral.
Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal.
Faltou a luz e gerou-se a confusão natural. E a Locas encontrou-se nos braços do Amaral. Logo esta grita aflita: acendam o castiçal.
Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa, 9 e tal.
Le tout nouveau club de Porto vit le jour grâce à l'initiative d'un certain José Monteiro da Costa, qui lors d'un séjour en Angleterre tomba sous le charme du Beautiful Games, que le beau jeu comme il était appelé en Angleterre. À ce niveau du texte, nous devrions ouvrir une petite parenthèse pour parler un peu de foot en Angleterre, C'était un sport qui était inspiré d'un jeu brutal que l'on appelait la soule au Moyen-Âge et qui se pratiquait en Europe et plus particulièrement en France. Et croyez-moi, le mot brutal est faible. Ce jeu magnifique tomba en désuétude dans les siècles qui suivirent, sauf en Italie, où on l'appelait le calcio, et en Angleterre, pays qui donna au sport ses lettres de noblesse en instaurant, à quelque chose près, les règles du foot moderne que nous connaissons aujourd'hui. Mais dans la première moitié du XIXe siècle, quand la pratique du football commença à se répandre dans les universités anglaises, c'était assez flou, et chaque école inventait leurs propres règles. Dans une, il fallait utiliser que les pieds. Dans une autre, on pouvait utiliser aussi les mains. Dans d'autres, on pouvait se servir de ses poings pour écarter les adversaires qui se risquaient à vous chipper le ballon. D'ailleurs, bien souvent, il n'y avait pas d'arbitre. Pas folle la guêpe. Quelquefois, il n'y avait pas de goal dans les buts. Le temps de jeu n'était pas le même partout. Le nombre de joueurs variait aussi selon les universités. Une légende veut que lors d'un match de football à rugby, en Angleterre, un joueur, lassé de taper sur le ballon, prit le cuir sous le bras et courra le mettre derrière la ligne de but. Ce serait à partir de là que le rugby, qui est pratiqué aujourd'hui, serait né. Mais bon, par la suite, la pratique du football fut plus réglementée quand une fédération fut créée. Avec ses associés, Dacosta crée plutôt un club omnisport. Car outre le foot, qui en est le fer de lance, le club de Porto s'illustre dans d'autres disciplines, comme la boxe, l'athlétisme, le polo, l'haltérophilie, la natation et bien sûr le cricket, forte communauté anglaise oblige. Dacosta et consorts lui trouveront un stade, le Camp de Rua de Rainha, et adopteront les couleurs qu'ils sont encore de nos jours, le blanc et bleu, qui étaient les couleurs du drapeau monarchique du Portugal de l'époque. En 1907, il sera le premier club portugais à accueillir une équipe étrangère, le Real Fortuna de Vigo, et surtout le premier aussi à sortir du pays, jouer le match retour à Vigo, évidemment. En 1910, il recevra un premier emblème avec les initiales FCP. Dacosta meurt en janvier 1911, à l'âge de 30 ans, mais le club qu'il a participé à fonder lui survit. En 1922 commence une compétition qui est l'esquisse d'un championnat, organisé par l'Union Portugaise de Football, qui ressemble plus à une coupe plutôt qu'à un véritable championnat. Pour la première édition, en finale, Porto battra le Sporting du Portugal par 3-1. Grâce à cette victoire, son prestige va aller crescendo. Dans les années qui suivirent, le club poursuivra son développement et d'autres sections sportives seront créées. Le basketball en 1926, le rugby à 15 en 1928, le handball en 1932 et le tennis de table en 1937. Leur premier coup d'éclat fut certainement quand ils battirent en 1948, l'équipe anglaise du London Arsenal, considérée alors comme la meilleure équipe du monde par le score de 3-2. Mais plus le club grandissait, plus il lui fallait de la place pour s'exprimer. Dans les années 50, le club frôlait déjà les 10 000 socios. Plusieurs stades et emplacements se succédèrent. Après au Camp de Rainha, il y eut au Camp de Constituição, suivi du Camp Amiol, du Stade de Lima, et puis dans les années 50, le club s'installa dans le Estádio das Antas. Il fut inauguré en mai 1952 et il est l'œuvre des architectes Oldemiro Carneiro et R.S. Dessa. Durant les années qui suivirent, il fut sans cesse amélioré et de nouvelles constructions furent greffées tout autour du stade, faisant du club omnisport de Porto un des plus grands du pays. Au plan sportif, ce ne fut pas très folichon. En 1956, ils gagnèrent un championnat en mettant fin à un jeûne sévère de titres. En 1959, ils gagneront un nouveau championnat et repartiront pour 18 années, sans titre. Il n'y a qu'en 1978 qu'ils retrouveront le goût de la victoire, grâce notamment au talent de leur buteur, Fernando Gomes. Si les années 60 furent les années de gloire pour le Benfica et le Sporting, les années 80 qui commençaient annonçaient la montée en puissance du FC Porto.
chope. À sombra do milho verde namorei uma cachopa.
Outre les championnats gagnés au plan international, les années 80 furent des années fastes pour le club. Sous la direction de Jorge Nuno Pinto da Costa, ils atteignirent la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1984. Malheureusement, ils seront battus par la Juventus où jouait un certain Michel Platini. 3 ans plus tard, en finale de la Coupe des clubs champions, ils battront le Bayern de Munich, grâce notamment au célèbre but de Rabah Majer, d'un geste de talonnade qui porte désormais son nom. Dans la foulée, ils remporteront la Super Coupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Dans ces années-là, Porto reléguera la concurrence, le Sporting et Benfica, aux places d'honneur. En 1990, le club opère de profondes mutations et devient un club à but lucratif. Les sports déficitaires sont impitoyablement supprimés, comme les sections échecs, rugby à 15, tennis de table et volley-ball. En 2000 sera créé un centre de formation interne au club. Et à l'occasion de l'Euro 2004, un tout nouveau stade sera construit, au Estadio do Dragão, qui fut inauguré en 2003. Sous l'égide de l'entraîneur José Mourinho, ils gagneront la Coupe de l'UEFA la même année, puis la Ligue des Champions l'année suivante, contre le club français l'AS Monaco, suivi d'une nouvelle Coupe intercontinentale, faisant du FC Porto l'équipe portugaise la plus capée au niveau international. Jugez plutôt 2 coupes intercontinentales, 2 coupes d'Europa League, 2 ligues des champions, 1 supercoupe UEFA et 1 finale perdue de la Coupe des vainqueurs de coupe, une compétition qui n'existe plus. En 2020, le club aura remporté 29 championnats et 17 coupes du Portugal. Des journaux sportifs au Portugal sont liés aux 3 grands. Si à Bol est assigné au Benfica et Record au Sporting, au Jogo est associé au FC Porto. Et bien sûr, il y a aussi le Porto Canal TV qui a commencé à émettre en septembre 2006, qui sera géré par le FC Porto à partir d'août 2013. À ce jour, le FC Porto reste le club le plus titré avec 121 trophées officiels, nationaux et internationaux, devant Benfica avec 113 trophées et le Sporting qui lui en détient 85. Et au classement des clubs UEFA, en décembre 2020, le FC Porto est classé 14e. Avant de vous parler du deuxième club des 3 grands, nous allons parler un peu du championnat portugais. Il fut créé en 1934, mais avant cette date, des prémices de compétition existaient. dans les années 20, il y avait un championnat, au Campeonato de Portugal. Déjà, les trois grands monopolisaient les victoires. Puis, de 1934 à 1938, a eu lieu la première Ligue expérimentale, considérée comme non officielle. En réalité, l'officialisation du championnat portugais débutera en 1938 et s'appellera Primeira Divisão. Elle prendra le nom de Primeira Liga en 1999. Et depuis 22 ans, elle change régulièrement de nom selon les sponsors qui parrainent le championnat. Et oui, dans le milieu du foot, c'est le dieu argent qui fait la pluie et le beau temps. De 2002 à 2005, elle s'appelait Superliga Galp Energia. Puis Liga Betanduin.com de 2005 à 2006. De 2006 jusqu'en 2008, elle se prénommera Bwin Superliga et elle se fera appeler Liga Sagres de 2008 à 2010. Tenez bon, on a presque fini. De 2010 à 2015, elle se nommera Liga Zone Sagres. Et enfin, depuis février 2015, on l'appelle la Liga Nos. En parallèle, une Coupe du Portugal fut instituée qui commença en 1938. Le premier vainqueur fut o Académica de Coimbra. Mais depuis sa création, l'emprise sur la coupe des trois grands fut moins prenante et d'autres clubs purent l'avoir dans leur palmarès. Avec Coimbra qui fut le premier vainqueur, il y eut le Belenense, le Leixões SC, Vitória Setúbal, SC Braga, Boavista qui la gagnèrent deux années de suite, Estrela da Amadora, Beira-Mar, Vitória de Guimarães et le CD Aves en 2018. Au début du siècle dernier, un groupe de jeunes à Lisbonne, issus de la bourgeoisie et de la noblesse portugaise, décide de créer un club de foot à Ceteias. Ce sont deux frères, Francisco et José Maria Gavazzo, qui en sont à l'origine, et lui donnent le nom de Belas Football Club. Mais le tout nouveau club était plus axé sur l'organisation de fêtes et de voyages pour la jeunesse dorée de la noblesse, et la pratique du football était quelque peu délaissée. Alors, lors d'une assemblée générale, en avril 1906, et constatant que la pratique du football n'était vraiment pas la première préoccupation des présidents, un des membres, un certain José Alvalade, sollicita l'aide financière de son grand-père, le vicomte d'Alvalade, et du docteur Alfredo Augusto das Neves Oltremann, pour un projet qu'il avait en tête, fonder un nouveau club orienté exclusivement vers la pratique du football. Le grand-père accepta et mit à disposition des terrains afin qu'on y puisse jouer au foot. Le Sporting du Portugal était né. Le 8 mai 1906, les 10 membres fondateurs établirent les grandes lignes du futur club. Le vicomte d'Alvalade en prendra la direction jusqu'en 1910 et dans son discours d'intronisation, il annoncera sa ferme intention d'en faire un grand club. Son tout premier match officiel se soldera par une défaite cuisante, 5-1, contre le club de Cruz Negra, en février 1907. Le tout premier derby lisboète entre le Sporting et le Sport Lisboa, qui plus tard deviendra le Sport Lisboa et Benfica, en décembre 1907, verra la victoire du Sporting sur le score de 2-1. Première confrontation entre les deux frères ennemis. C'était le club des riches, le Sporting, avec leur équipement sportif, dernier cri, et le club des pauvres, le Sport Lisboa, qui n'avait même pas de terrain pour jouer. À partir de 1910, José Alvalade devient le président du Sporting. Il gardera le poste jusqu'en novembre 1912, poste qu'il quittera suite à des différends. Il mourra à l'âge de 33 ans, le 19 octobre 1918, victime de la grippe espagnole. De sa fondation jusqu'en 1947, le club gagnera 19 fois le championnat de Lisbonne et gagneront le premier championnat de Portugal, ancienne version, en 1923, en battant en finale Faro par 3-1. En 1928, ils opteront pour le maillot rayé blanc et vert, inspiré des tenues du rugby. Une croyance veut que les maillots rayés de couleurs différentes soient plus frais à porter que les maillots à couleurs unies. L'époque entre 1940 et 1960 furent les années dorées du Sporting. Ils gagnèrent 10 titres de champion, ainsi que 5 coupes du Portugal. Ce fut le temps des 5 violinos reconnus en Europe, comme étant une équipe prodigieuse. Leurs 5 attaquants, Jesus Correia, Manuel Vasques, Fernando Peroteo, José Travassos et Albano, ont acquis le surnom des 5 violons, car sur le terrain ils jouaient de concert et leur entendement était parfait. En une seule saison, ils marquèrent 123 buts dans un championnat à 14 équipes, soit une moyenne de 5 buts par match. Le 10 juin 1955 fut l'inauguration du stade José Alvalade, qui aujourd'hui n'existe plus. Il fut démoli au début des années 2000 et à la place fut construit le tout nouveau stade José Alvalade 21, qui fut érigé pour la Coupe d'Europe des Nations de 2004 qui se déroula au Portugal. Au niveau européen, le Sporting réussit à gagner la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe contre le club hongrois MTK Budapest en 1964. Éliminant au passage, excusez du peu, Manchester United par 5-0 à Alvalade, après avoir été battu en Angleterre 4-1. À noter que le Sporting détient toujours le record de buts marqués en un match dans une compétition européenne de football. 16-1 face à l'Apoel Nicosie, qui est un club de Chypre. La période entre 1982 et 2000 furent des années de 17. Le club fut totalement éclipsé par les deux autres grands. Le Sporting fut à nouveau champion en 2002, grâce notamment à sa doublette d'attaquants, Vieira Pinto et Mario Jardel, qui fut soulier d'or à cette année-là, avec 42 buts inscrits. Et depuis, bah plus rien. Jusqu'à cette année, peut-être, qui sait, servi par une jeunesse talentueuse, il risque d'aller jusqu'au bout.
No comboio dos atrasos vai gente que a gente esquece, vai quem nunca chega a horas e às vezes nem aparece. Logo pela madrugada vai o sino
final de um bocejo. Vai uma noite acordada, vai a lembrança de um beijo. Vai quem perdeu quase tudo e quem não tem nada a perder. E vai alguém com ar sisudo por não ter nada a dizer.
Vai uma lágrima solta num olhar desamparado. Um bilhete de ida e volta que ainda nunca foi usado. Um caso de amor secreto com perfume de abandono. Vai um olhar indiscreto e por resposta um ar de sono.
No comboio dos atrasos vai gente que a gente esquece. Vai quem nunca chega a horas e às vezes nem aparece. Devagar, devagarinho, eu conheço tantos casos de quem passa a vida inteira no comboio dos atrasos.
Vai quem quer andar no centro, quem do centro nunca sai. Vai quem não quer ir lá dentro, mas não sabe aonde vai.
No comboio dos atrasos vai gente que a gente esquece. Vai quem nunca chega a horas e às vezes nem aparece. Devagar, devagarinho, eu conheço tantos casos de quem passa a vida inteira no comboio dos atrasos.
Chega a horas e às vezes nem aparece. Devagar, devagarinho, eu conheço tantos casos de quem passa a vida inteira no comboio dos atrasos. No comboio dos atrasos. Devagar, devagarinho. No comboio dos atrasos.
En 2018, une crise sans précédent ébranla le Sporting et fit grand bruit au Portugal. Le point de départ fut une défaite en Coupe d'Europe, le 5 avril 2018, contre l'Atlético de Madrid, à la suite de laquelle le président du club, Bruno de Carvalho, s'en était pris vivement aux joueurs, leur reprochant de n'être pas à la hauteur et carrément d'en branler pas une. Ces derniers, par la suite, lui répondront dans les réseaux sociaux par l'intermédiaire de leur capitaine, Rui Patricio. De Carvalho ne se démonta pas. À brûle-pourpoint, il décidera de suspendre les 19 joueurs qui ont publié ou partagé le communiqué de Patricio. Quelques semaines plus tard, une nouvelle défaite contre le Maritimo va les priver d'une qualification pour la Ligue des Champions. Cette défaite est la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Quelques jours plus tard, 50 hommes cagoulés vont s'introduire dans le centre d'entraînement et agresseront les joueurs du Sporting et plusieurs membres du staff. C'est dans ce climat délétère qu'ils perdront la finale de la Coupe du Portugal. La crise se poursuivra avec la résiliation de contrats de plusieurs joueurs cadres, tels que Rui Patricio, William Carvalho, Bas Dost et d'autres. Cela va être un énorme manque à gagner pour le club. Les actionnaires furieux obtiendront la démission du président du Sporting, Bruno de Carvalho. Il n'empêche que le Sporting du Portugal détient un des meilleurs centres de formation du Portugal et d'Europe. Il en est sorti de grands noms du foot, Paulo Futre, Luis Figo, Nani, Rui Patricio et bien sûr Cristiano Ronaldo. Même le grand Eusebio à l'époque faisait partie d'une filiale du Sporting au Mozambique. Il fut arraché par Benfica in extremis au Sporting. Cet épisode d'ailleurs contribua fortement à augmenter la rivalité entre les deux clubs de Lisbonne. Et bien sûr, comme les deux autres, le club a son journal, son hymne, son blason et sa chaîne de télévision. Et enfin, pour finir l'émission, nous allons parler du troisième club, et certainement celui qui a le plus de socios au Portugal et dans le monde. Je vais bien sûr parler du Sport Lisboa et Benfica, plus connu en Europe sous le nom de Benfica de Lisbonne. En février 1904, un groupe de jeunes se réunissent. La plupart sont originaires de Belém, à quelques kilomètres de Lisbonne. L'objet de la réunion est la création d'un club de foot, et sous l'égide du cofondateur, Cosme Damião, le groupe Sport Lisboa est né. Le premier président du club sera José Rosas Rodrigues. Leur premier match est joué en janvier de 1905. Mais ils pratiquent leur passion avec des conditions matérielles insuffisantes. Pour cause, ils n'ont même pas un terrain où ils peuvent jouer. En conséquence, pendant l'année 1907, plusieurs joueurs de l'équipe partent au Sporting. Devant cet état de fait, les dirigeants vont vite réagir et vont tenter de fusionner avec un autre club. Dans un premier temps, ils demanderont à l'équipe de Belém, le Belenense, qui refusera la proposition. Alors, tout naturellement, ils vont se tourner vers un petit club du nord-ouest de la capitale, le Benfica, du nom d'un quartier. De plus, ils avaient un terrain bien à eux. En 1908, la fusion accouche d'un nouveau club, le Sport Lisboa et Benfica. Ils adopteront un blason, auront leur devise, I pluribus unum, et désormais leur couleur de maillot sera le rouge. Un mois plus tard, dans un match officiel, le Benfica battront le Sporting, et la consécration sera en 1910, quand ils seront champions de Lisbonne, en battant en finale le Carcavelos Club, club qui était entièrement composé de joueurs anglais. De cette victoire glorieuse, le Benfica héritera d'un surnom, au Glorioso. Benfica remportera son premier championnat en 1936. Ce fut le premier d'une longue série à ce jour. Ils en sont à 37 victoires. Les années 40 et 50 furent que des passes à deux entre le Benfica et le Sporting, du moins en ce qui concernait le championnat.
Chamava-se Carmencita, a cigana mais bonita do que um sonho, uma visão. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Os afagos e carinhos perdeu os pelos caminhos, sem nunca os ter conhecido. Andou buscando aventura, como quem anda à procura de um grão de areia perdido. Andou buscando aventura, como quem anda à procura de um grão de areia perdido. Numa noite de luar, ouviram o galopar de dois cavalos fugindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sono lindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sono lindo. Só esta canção magoada se envolve no pó da estrada quando passa a caravana. Carmencita, Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Carmencita, Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana.
En 1950, l'équipe atteindra sa première finale internationale dans la Coupe Latine. Après avoir éliminé la Lazio de Rome en demi-finale, Benfica rencontrera par la suite les Girondins de Bordeaux pour le match final et réussiront à battre les Français par 4-3 au bout de 146 minutes de jeu. L'âge d'or de Benfica fut évidemment les années 60. Ces années-là, ils avaient une équipe hors du commun qui fut complétée par l'arrivée de Zébio en 1962. Ils feront 4 finales de Ligue des Champions d'affilée, de 1961 à 1964. Mais aussi un entraîneur qui ne sortait pas de l'ordinaire, un certain Bela Gutmann. inspirateur de Pep Guardiola et de Mourinho. Même de nos jours, il est encore considéré comme un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. C'est lui qui fut à l'origine du schéma tactique de 4-2-4, qui fut adopté par l'équipe nationale du Brésil, qui gagnèrent deux Coupes du Monde d'affilée. Il est né à Budapest, la capitale de la Hongrie, en 1899, et réussit à s'échapper de la Shoah. Il joua comme défenseur dans l'équipe nationale de Hongrie et tout naturellement devint entraîneur par la suite. Il débarqua au Portugal en 1959, après un passage à Porto, dont il fit gagner le championnat. Il signera au Benfica, où il attire la pépite Zébio. En 1961 et 1962, Lisbonne remporte deux Coupes d'Europe d'affilée. Fort de ce succès, Gutmann demandera une augmentation substantielle qui lui sera refusée. C'est là que le Hongrois va lancer sa malédiction. Il va démissionner, et en partant, il aurait déclaré, je dis « aurait » car rien n'est bien sûr, que sans lui, le Benfica ne gagnera aucune Coupe d'Europe au moins pendant 100 ans. Vrai mauvais sort, lancé par le sorcier hongrois, surnom qu'on lui donna par la suite au Portugal, ou malheureuse coïncidence, il n'empêche que depuis, Benfica arrivèrent 8 fois en finale sans en gagner aucune. Et malgré la prière de Zébio du 23 mai 1990 sur la tombe viennoise de Gutmann, avant la finale de Coupe des clubs champions, qui sera perdu contre le Milan AC, n'aura pas réussi à briser la malédiction. Pas plus d'ailleurs que la statue du technicien hongrois qui fut érigée près de la porte 18 du Stade d'Alouz. Le dernier revers fut en 2014, en Ligue Europa, quand ils perdirent au tir au but contre le Séville FC. Ironie du sort, le pénalty de la victoire fut tiré par Gavin Camero, d'origine portugaise. Et depuis ce jour funeste, au niveau européen, plus rien ne fut gagné. Allez courage Benfiquistes, il n'y a plus que 42 ans à attendre. Malgré tout, le club continua à gagner des titres nationaux. De plus, il détient le plus grand pourcentage de supporters au Portugal dans le monde. Et il est dans le trio de tête pour ce qui concerne le nombre de socios, avec plus de 230 000 membres. En 2019, il était juste derrière le Bayern de Munich. En 2000, il fut classé par la FIFA comme le 12e club du 20e siècle. Leur stade, au Stade de Luz, qui est une ancienne paroisse du quartier de Benfica, située de nos jours au centre-ouest de la ville, près de l'énorme parc du Monsanto. Le stade tire son nom de l'église Nossa Senhora da Luz. Dans les années 50, il avait une capacité de 135 000 spectateurs. Mais pour l'Euro 2004, il fut reconstruit et modernisé. Il n'a plus qu'une capacité de 65 647 spectateurs. Leur centre de formation fut inauguré en 2006. Et cela va de soi, comme les deux autres, le club a son blason, un journal qui lui associait une chaîne de télévision.
Carolina, meu amor, vai lá com meu amor, vai lá esta Carolina, vai lá, sim senhor.
O senhor cura nos bala porque tem uma coroa. Vai, o senhor cura, vale que Deus tudo lhe perdoa.
Vai lá esta Carolina, vai lá, sim senhor. Diz-me com quem vai lá, vai lá com meu amor, vai lá com meu amor.
Et voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur les trois principaux clubs de foot. Pour ma part, je suis plutôt un sportingiste. Et depuis une dizaine de presque 20 ans, il semblerait que cette année sera leur année. On verra bien. Mes chers amis, au revoir et à la prochaine fois.
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Merci Manu pour ta prestation footballistique. Et voilà, très chers auditeurs, notre mission se termine. Merci pour votre écoute. On revient évidemment la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Pour ma part, je vous embrasse.
Au revoir tout le monde. Et puis une prochaine fois.
Et la parole est au technicien.
Eh oui, ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. On revient évidemment samedi prochain à la même heure avec d'autres sujets. Pour ma part, je vous réserve une spéciale Sergio Godinho pour le 1er mai. Et n'oubliez pas le podcast de cette émission qui sera disponible dans quelques minutes sur la page de Radio Résonance ainsi que sur notre page radio qui porte le nom de notre émission. Bon, bah bonsoir. Bonsoir, sortez couvert, vous me portez le masque et à bientôt.
À bientôt.
Tu vas parler ?
Non, c'est bon. À bientôt.
À demain.
Achar que nunca vai servir, caguei o escudo de me aproximar. Só ponho creme nas manchas da pele se funcionar. Recordo o acordo do corda ao despertador e ponho aquilo que eu tiver de pôr. A cortisona acaba.